À bien des endroits, les bâtiments étaient totalement en ruine et la couche de glace profondément fendue pour des raisons géologiques diverses. Ailleurs, la maçonnerie était usée jusqu'à atteindre le niveau même de la glace. Une large voie qui s'étendait de l'intérieur du plateau jusqu'à une ouverture dans le contrefort, à 1 kilomètre à gauche du col que nous avions franchi, était dépourvue de toute construction et, avons-nous conclu, représentait sans doute le cours d'une rivière du tertiaire, il y a des millions d'années. Elle devait s'écouler à travers la ville pour se jeter dans quelques prodigieux abîmes souterrains au-delà de la grande chaîne. Certainement, c'était là une région de cavernes, de gouffres et de mystères souterrains, hors de portée de toute exploration humaine. Quand je repense à nos sensations et au vertige qui s'est emparé de nous devant cette monstrueuse survivance d'une ère pré-humaine, je me demande comment nous avons pu préserver un semblant d'équilibre. Bien sûr, nous savions que quelque chose, la chronologie, la théorie scientifique ou notre propre conscience, n'allait pas. Et pourtant, nous avons gardé assez de présence d'esprit pour guider notre avion, observer ce spectacle en détail et prendre avec soin une série de photos qui pourraient être utiles pour nous comme pour le reste du monde. Dans mon cas, mes habitudes de scientifique, qui étaient devenues une seconde nature, m'ont été d'un grand secours, car au-delà de mon étonnement et de la sensation de menace, brûlait une curiosité qui m'a poussé à explorer davantage ce secret millénaire, à savoir quels êtres avaient pu créer et habiter cette gigantesque cité et quelle relation une telle concentration de vie avait pu avoir avec le monde de cette époque ou de tout autre. Car cet endroit n'avait rien d'une ville ordinaire. Il devait former le noyau primaire et le centre d'un chapitre archaïque et incroyable de l'histoire du monde, dont les ramifications, desquelles les mythes les plus obscurs et les plus déformés ne font que vaguement rappeler le souvenir, avaient totalement disparu au milieu du chaos suivant les convulsions de la Terre, très longtemps avant que toute race humaine connue n'ait fait les premiers pas qui l'éloigneraient de ses ancêtres simiens. Là s'étendait une mégalopole paléogéenne, à côté de laquelle les cités fabuleuses de l'Atlantide et de la Lémurie, de Comorion et d'Ouzouldaroum et de la Toé, dans le pays de l'Omar, dataient d'hier, même pas d'avant-hier. Une mégalopole comparable à ces blasphèmes préhumains que sont la Valusie, Railay, Ib dans le pays de Mnar et la cité sans nom du désert d'Arabie. Alors que nous survolions cet enchevêtrement de tours titanesques, mon imagination a dépassé toutes ses limites pour battre la campagne des associations fantasques, établissant même des liens entre ce monde désolé et certains de mes cauchemars les plus fous concernant les horreurs perpétrées au camp. Afin d'alléger notre appareil, le réservoir n'avait pas été complètement rempli, ce qui nous obligeait maintenant à la prudence dans nos explorations. Toutefois, après être descendus jusqu'à un niveau où les vents étaient négligeables, nous avons parcouru une distance immense. La chaîne de montagnes semblait ne jamais finir, tout comme cette terrifiante cité de pierre qui en bordait les contreforts intérieurs. Nous avons continué sur 100 kilomètres dans chaque direction, sans remarquer le moindre changement dans ce labyrinthe de pierre et de maçonnerie émergeant des glaces éternelles. Néanmoins, quelques surprises attiraient parfois notre attention, comme les bas-reliefs sur les parois du canyon, à l'endroit où cette large rivière avait percé les contreforts pour venir mourir au cœur de la montagne. Les promontoires rocheux, de part et d'autre du passage du fleuve, avaient été audacieusement sculptés en pylônes cyclopéens, et quelque chose, dans leur forme de tonneau, parcouru de crêtes, évoquait en nous des bribes de souvenirs étrangement vagues, détestables et troublantes. Nous avons aussi aperçu d'étranges espaces dégagés en forme d'étoiles, certainement des places publiques, et avons remarqué diverses ondulations sur le terrain. Quand une colline s'élevait abruptement, elle était généralement évidée pour former un édifice de pierre de forme biscornue. Mais il y avait au moins deux exceptions. L'une d'entre elles avait tant souffert des ravages du temps qu'il était impossible de dire ce qu'il y avait eu sur cette éminence. L'autre arborait un monument conique, fantastiquement taillé à même la roche et ressemblant approximativement au fameux tombeau du serpent de l'antique vallée de Petra. Partant des montagnes pour nous aventurer vers l'intérieur des terres, nous avons découvert que la cité n'était pas infinie, du moins en largeur, même si elle semblait s'étendre sans bornes le long des contreforts. Au bout d'une 50aine de kilomètres, les bâtiments de pierre commençaient à se raréfier. et une quinzaine de kilomètres plus loin, nous sommes tombés sur un espace dégagé quasiment dépourvu de toute construction artificielle. Au-delà de la ville, une large dépression rectiligne marquait le cours du fleuve, tandis que le terrain lui-même se faisait un peu plus irrégulier et semblait s'élever légèrement tout en disparaissant dans les brumes à l'ouest. Jusque-là, nous n'avions pas encore atterri. Mais quitter le plateau sans chercher à entrer dans une de ces monstrueuses structures aurait été inconcevable. Nous avons donc décidé de nous trouver un endroit suffisamment dégagé sur les contreforts, près de notre col navigable, afin de pouvoir poser l'avion et explorer les lieux à pied. Bien que ces pentes soient partiellement couvertes de ruines éparpillées, en volant à basse altitude, nous avons fini par trouver bon nombre de terrains d'atterrissage possibles. Choisissant le plus proche du col, puisque notre prochain voyage nous ramènerait au camp par-delà la grande chaîne montagneuse, nous avons réussi à nous poser vers midi et demi sur un champ de neige dur et lisse, dépourvu d'obstacles et adapté à notre futur décollage. Il ne nous a pas semblé nécessaire de protéger l'avion par une barrière de neige pour un temps si court et en l'absence de vent violent à ce niveau. Nous nous sommes juste assurés que les skis du train d'atterrissage étaient bien fixés et que les parties vitales des mécaniques étaient protégées du froid. En préparation à notre marche, nous avons laissé sur place une bonne partie de nos fourrures de vol et avons pris avec nous un équipement minimal, une boussole de poche, une caméra manuelle, des provisions légères, des carnets de notes volumineux, un marteau et un ciseau de géologue, des sacs à échantillons, des rouleaux de cordes d'alpinistes et de puissantes torches électriques avec des piles de rechange. Nous avions emporté tous ces ustensiles dans l'avion au cas où il nous serait possible d'atterrir, de prendre des photos au sol, de faire des croquis topographiques et d'extraire des échantillons minéraux sur une pente dénudée, sur une saillie rocheuse ou dans une caverne. Heureusement, nous avions une provision supplémentaire de papier que nous avons déchiré et emporté dans un sac à échantillons et que nous comptions utiliser pour marquer notre chemin, tel le petit pousset, tout au long des labyrinthes dans lesquels nous pourrions nous aventurer. Ceci au cas où nous découvririons un système de cavernes où l'air serait assez calme pour nous permettre d'utiliser cette méthode simple et rapide, au lieu de devoir, selon le procédé habituel, graver sur les parois rocheuses les signes de notre passage.